Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 32e dimanche. Il en ira alors du règne des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sages. Les insensées, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Par contre, les sages prirent de l'huile dans des fioles avec leurs lampes. L'époux tardant, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit.
« Voici l'époux, sortez à sa rencontre !»
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensées dirent aux sages,
« Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Les sages répondirent,
« Non, non, cela ne suffira jamais pour vous et pour nous. Allez plutôt chez les marchands pour en acheter pour vous. »
Comme celles-ci allaient en acheter, l'époux vint. Celles qui sont prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles viennent aussi et disent,
« Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !»
Mais lui, en réponse, leur dit,
« Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. »
Donc, veillez, vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, André.
Bonjour, Georges. Eh bien, aujourd'hui, une histoire de noces avec un marié qui a tellement de retard que les demoiselles d'honneur finissent par s'endormir. Qu'est-ce que cela a à voir avec le règne de Dieu?
Eh bien, depuis le début du chapitre 24, Matthieu a regroupé l'enseignement de Jésus qui concerne ce que l'on appelle la fin des temps, la fin du monde. L'avènement du règne de Dieu, en effet, ne se fera pas sans épreuve, car l'histoire du monde, pour la Bible, est un drame où sévissent sans cesse les forces du mal. Pourtant, le règne de l'amour se construit, et chacun doit veiller à sa construction. Les bâtisseurs du règne de Dieu ne sont d'ailleurs pas toujours ceux que l'on pense.
Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre est laissé. Deux femmes sont en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée.
Dans le chapitre 25, trois petits textes vont illustrer comment les disciples de Jésus doivent collaborer à la venue de ce règne. C'est d'abord la parabole des 10 jeunes filles, qui est notre texte, puis la parabole des talents, et enfin la description du jugement final, cette merveilleuse fresque du jugement dernier.
Alors, le règne des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux.
Eh bien, au début de notre commentaire, regardons comment se déroulait une noce palestinienne au temps de Jésus. Toute la journée, il y aura eu des danses et, à la tombée de la nuit, un repas. C'est alors que la jeune femme va être conduite dans la maison paternelle de son époux. Des femmes l'accompagnent à la lumière des flambeaux. Ces femmes, d'ailleurs, peuvent être des servantes de la maison de l'époux. Pendant ce temps, le marié, lui, va essayer de s'entendre avec ses beaux-parents sur les cadeaux que les beaux-parents demandent. Et les exigences des parents de cette jeune fille vont manifester l'estime qu'ils accordent à leur fille, à la jeune épousée. Et plus les exigences seront grandes, eh bien, plus l'estime sera importante. Alors, quand il est prêt, quand les tractations sont finies, le jeune marié, avec ses amis, va se rendre chez lui. Il envoie un messager annoncer sa venue. Les femmes laissent alors la mariée et vont à la rencontre de l'époux avec leur flambeau. Et c'est alors qu'a lieu la bénédiction nuptiale dans la maison paternelle. L'exégète Jérémias rapporte la description d'une noce chrétienne en Palestine mais au début de notre siècle, et cela ressemble un peu à ce qui se passait au temps de Jésus.
Tard dans la soirée, les invités furent régalés dans la maison de la fiancée. On attendit des heures le fiancé, dont plusieurs fois un messager annonça l'approche. Il n'arriva que vers 23h30 pour prendre son épouse. Ses amis l'accompagnaient, faisaient de leur chandelle une mer de lumière, et les invités vinrent à leur rencontre. En un grand cortège, toute la noce, dans un flot de lumière encore, conduisit les deux jeunes gens chez le père du fiancé, où eurent lieu la bénédiction nuptiale et un nouveau repas.
Jésus a donc pris, pour sa parabole des 10 jeunes filles, un exemple dans la vie quotidienne. Nous verrons ce que veut dire cet exemple et quelle est la leçon fondamentale que nous donne ce récit.
Vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Oui, c'est ainsi que se termine notre récit. Alors de quel jour et de quelle heure s'agit-il? Eh bien, il s'agit du grand jour du Seigneur Dieu. Dieu, un jour, triomphera de tous ceux qui ne vivent pas conformément à la Torah, et il établira définitivement son règne sur la terre. C'est que le mal est fort et puissant dans le monde, et ce mal semble mettre en échec le projet de Dieu, qui veut tellement, tellement établir une communion de toute l'humanité dans l'amour. Parce qu'il est infiniment saint, un jour, Dieu va s'enflammer contre le mal, et ce jour du triomphe final, eh bien voilà qu'il est appelé souvent dans la Bible le jour de la colère de Dieu. Dans ses débuts, Israël voit surtout la colère de Dieu tournée vers les peuples voisins, ces peuples qui sont coupables de vouloir exterminer le peuple de Dieu. Et il voit Dieu lutter avec son peuple pour détruire ses ennemis. Écoutons Jérémie.
Pour le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, ce jour est un jour de vengeance pour se venger de ses adversaires.
Dans cette pensée, eh bien, le monde se divise en deux clans. D'un côté, il y a les bons, et bien sûr c'est Israël, et de l'autre, il y a les mauvais, et ce sont les autres peuples.
Ne pourrait-on pas dire que cette façon de voir est encore actuelle?
Mais il suffit de regarder les conflits et l'assurance de ceux qui mettent Dieu à leur service. Dieu est à nos côtés, c'était ce qui était inscrit sur les ceinturons allemands lors de la guerre 39-45. Et donc ce Dieu va nous aider à détruire nos ennemis. Mais pendant ce temps-là, le cardinal Spellman bénissait les drapeaux des forces américaines. Cette vision ne marche pas toujours. En effet, il arrive qu'Israël ne soit pas toujours victorieux et que la victoire se trouve justement du côté des autres, ceux qu'on a déclarés les mauvais. Alors lorsque le peuple de Dieu est vaincu, que Jérusalem est prise, que la population est déportée en exil, eh bien les prophètes vont expliquer qu'Israël est puni par Dieu pour ses propres fautes. Cette fois, la colère de Dieu s'est donc tournée contre son peuple qui est infidèle à la Torah.
Elle a commis la faute, Jérusalem, et la voici devenue une ordure. Quand son peuple tombe aux mains de l'adversaire et que personne ne vient l'aider, les adversaires la voient et rient de son anéantissement. Oui, dans son sanctuaire, elle voit entrer des peuples païens. Son peuple tout entier gémit. Ils cherchent du pain et ils donnent leur charme contre de la nourriture. Regardez, voyez, si les douleurs comme ma douleur. Celle que le Seigneur Dieu inflige au jour de son ardente colère.
Malgré tout, les prophètes vont s'efforcer de sauvegarder l'espérance d'Israël. Et ils disent qu'un petit reste sera fidèle à Dieu.
En ce jour, le reste de Sion, les survivants de Jérusalem seront appelés saints.
C'était déjà d'ailleurs la promesse de Dieu au prophète Élie qui se plaignait que le peuple avait été infidèle et qu'il avait adoré les idoles païennes. Alors Dieu lui répond:
je me suis réservé 7000 hommes, ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, le dieu païen.
Cette idée d'un petit nombre qui sera fidèle à la Torah sera associée à la mission du roi Messie. Le roi Messie consacré par Dieu, qui est le défenseur de la Torah et le père de son peuple, vrai serviteur de Dieu, ce roi Messie m'a mené l'action purificatrice de Dieu pour séparer les bons des mauvais dans le peuple même de Dieu. C'est pourquoi le jour de la colère de Dieu devient le jour du Messie. Eh bien, c'est cela que prêchait Jean le Baptiste. Il comparait le rôle du Messie à celui du paysan qui va vanner son blé. Il va le purifier d'une certaine manière puisqu'il va séparer le grain de la petite écorce que l'on appelle la balle. Le bon grain sera engrangé et le mauvais, la balle, sera brûlé. Aux chefs religieux, qui se croient justes et dispensés de conversion, Jean n'hésitera pas à dire
« Engeance de vipère, qui vous a suggéré que vous pouviez échapper à la colère du jour qui vient ?» Comment Jésus voit-il ce jour de la colère du Seigneur Dieu?
Mais au tout début de sa mission, Jésus commente à la synagogue de Nazareth le chapitre 61 d'Ésaïe. Et dans sa lecture, il va omettre le verset qui parle justement de ce jour de la vengeance de Dieu. Il préfère s'arrêter sur l'an de grâce. L'an de grâce qui est l'année où sont remises toutes les dettes. Et donc c'est aussi l'année du grand pardon de Dieu. Jésus parle de libération pour tous les opprimés, de lumière pour tous ceux qui sont aveugles, de message de bonheur pour tous les pauvres. Libération, lumière, bonheur, au plan physique bien sûr, mais surtout au plan moral et spirituel, c'est la libération de l'égoïsme et de la haine. C'est la lumière qui va donner sens à la vie. C'est le bonheur qui naît de notre aptitude à aimer avec gratuité. C'est le pardon qui recrée et qui redonne vie à celui que le mal a détruit. Déjà à Moïse, Dieu s'était révélé comme le Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, un Dieu qui reste fidèle à des milliers de générations et qui supporte la faute, la révolte et le péché. Isaïe disait de Dieu que sa colère ne dure qu'un instant, mais que son amour est éternel. Jésus se voit comme envoyé par Dieu, non pas pour une mission de jugement, mais pour une mission de guérison, de recréation, de pardon. Devant la conversion de Zachée, il redit quel est l'essentiel de sa mission.
Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maisonnée, car Zachée lui aussi est un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus.
Oui, Jésus ne condamnera pas la femme adultère. Jésus mangera avec les publicains et les pécheurs. Il vient sauver ceux qui se savent pécheurs en les aidant à ouvrir leur cœur à la bonté de Dieu.
Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde.
Et Jean-Baptiste d'ailleurs va s'étonner de ne pas voir Jésus préparer ce grand jour de la colère de Dieu, de la purification, et il se demandera s'il faut attendre un autre Messie.
Jean envoya vers le Seigneur deux de ses disciples pour lui demander « Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »
Alors quand donc va venir ce grand jour de Dieu? Quand donc Dieu va-t-il enfin purifier son peuple? Eh bien Jésus répond à cette question dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le maître, qui est Dieu, dites à ses serviteurs,
de peur qu'en cueillant les ivraies, vous déracinez avec elles le blé. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, recueillez d'abord les ivraies et liez-les en bottes pour les brûler. Mais rassemblez le blé dans mon grenier.
Jésus décrit ce jour de la moisson comme la fin de l'histoire humaine. Et l'on peut sans doute jouer sur les deux sens du mot fin. C'est à la fois le terme, mais c'est aussi le but, la finalité. Tout au long de l'histoire, le mal et le bien, pour Jésus, vont donc se mêler. C'est-à-dire que les bons et les mauvais vont se côtoyer. Et les mauvais pourront même paraître plus forts que les bons, parfois sembler plus heureux. Est-ce que ce n'est pas l'expérience de nombreux croyants et qui risquent alors de se décourager? Jésus demande au contraire de cultiver sans relâche notre espérance, car on ne peut attendre passivement cette fin de l'histoire. Et c'est là que nous retrouvons l'histoire des jeunes filles qui veillent en attendant l'époux pour partager la fête des noces. Pour Jésus, le jour de Dieu n'est donc pas d'abord un jour terrible de châtiment, c'est au contraire l'heure de la joie, le jour des célébrations de cette communion enfin accomplie dans l'amour de Dieu. Puisque c'est le Dieu époux que l'on attend, et non pas le juge qui condamne, il est bon de remettre dans notre mémoire les merveilleuses images du prophète Isaïe.
Ainsi parle le Seigneur, on t'appellera celle en qui je prends plaisir, l'épouser. Comme le jeune homme épouse sa fiancée, ton Créateur t'épousera. De l'enthousiasme du fiancé pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi.
Oui, puisque tel est l'aboutissement de l'attente, veiller n'est pas seulement ne pas dormir. C'est, comme le dit si bien l'amante du Cantique des Cantiques, garder son cœur en état d'éveil.
Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe.
Cette veille traduit la constante fidélité de l'amour, et cela même lorsque l'époux Dieu nous semble lointain et absent.
Comment garder notre cœur fidèle?
Les jeunes filles qui accompagnent l'époux vont se qualifier ou en sage ou en insensé. On trouve déjà ces deux qualificatifs, sage et insensé, dans la bouche de Jésus à propos de celui qui bâtit sur le roc et de celui qui bâtit sur le sable. Le sage, c'est celui qui bâtit sur le roc parce qu'il accueille la parole de Dieu et qu'il la met en pratique dans sa vie quotidienne. L'insensé, c'est celui qui bâtit sur le sable parce qu'il accueille la parole, mais il ne lui fait pas porter de fruits. Et c'est peut-être ce que veut décrire le fait d'avoir de l'huile à lampe ou de ne pas en avoir. On a de l'huile en réserve si la parole de Dieu a fait porter des fruits de justice et de bonté dans notre vie. Ou bien, on n'a pas d'huile et la lampe s'éteint, c'est-à-dire que la parole de Dieu est restée lettre morte. Et notre vie n'est qu'en apparence une vie croyante, car elle ne porte aucun fruit. Il ne s'agit donc pas de jeunes filles qui étaient étourdies, elles auraient eu un moment d'inattention, non. Il s'agit de jeunes filles qui croient aimer, mais qui se trompent elles-mêmes, car leur amour n'est pas réel.
Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Autrement dit, il ne suffit pas de prier, de pratiquer sa religion en assistant aux offices religieux. Il faut mettre en pratique chaque jour, à chaque heure, l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. La grande fresque du jugement dernier explicitera d'ailleurs ce que sont ces gestes d'amour qui tissent dès maintenant notre vie d'éternité.
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus à moi. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je ne vous connais pas.
Oui, oh, cette expression peut nous paraître surprenante, tellement elle nous semble dure. Elle était, de fait, plutôt courante à l'époque, mais pour indiquer à quelqu'un qu'on n'avait plus affaire avec lui. C'était la réprimande du rabbi, du maître, à l'élève, pour lui interdire de fréquenter le cours pendant 7 jours, parce qu'il avait commis une faute.
Comment comprendre cette réaction si elle doit signifier l'attitude de Dieu ? Dieu n'est-il pas pardon et miséricorde?
On a cité plus haut un passage de Matthieu qui reprend l'expression « je ne vous connais pas ». Un autre passage de l'évangile de Luc comporte une réponse semblable. Écoutons-le.
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, quand, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et qu'il vous répondra « Vous, je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et c'est sur nos places que tu as enseigné ». Il vous dira « Je ne sais d'où vous êtes ». Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal.
Alors comment comprendre que Dieu semble ne pas reconnaître ceux qui sont apparemment ses fidèles, car ils ont mangé avec lui dans les repas sacrés, ils ont écouté son enseignement? Eh bien, c'est que l'amour de Dieu n'était pas dans leur cœur, car ils ne vivaient pas cet amour de totale gratuité qui a compassion du prochain. C'est ce que la première lettre de Jean décrit, ce lien nécessaire entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain.
Et si quelqu'un possède les biens de ce monde, et s'il voit son frère dans le besoin et se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Celui qui garde et met en pratique les préceptes de la règle de Dieu, celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Celui qui n'aime pas son frère ne saurait prétendre aimer Dieu. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas en communion avec Dieu. Il a déjà fermé la porte de son cœur à Dieu. Il s'est déjà exclu de la table du festin des noces. Reprenons encore quelques versets de la lettre de Jean qui éclaire cette expression « Je ne vous connais pas ».
À ceci se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère.
Oui, nous savons que nous sommes passés de la mort dans la vie puisque nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
Mais bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour.
C'est sur l'amour que nous serons jugés, et non pas sur la connaissance de Dieu. Plus exactement, c'est sur l'amour que se joue déjà maintenant, aujourd'hui, toute notre vie. Celui qui aime, eh bien Dieu demeure en lui et son amour est accompli en lui. Mais cette attente amoureuse du Christ, elle ne peut être que personnelle. Et c'est sans doute ce que veut signifier l'impossibilité pour les jeunes filles sages de donner de l'huile aux insensés. Toute histoire d'amour est personnelle, on ne peut pas aimer pour d'autres.
Ce jour ou cette heure, personne ne les connaît. Ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père.
C'est une phrase surprenante. Comment comprendre que même le Fils bien-aimé, unique, soit dans l'ignorance du jour de Dieu? Eh bien, peut-être parce que cette ignorance est la condition même de la possibilité d'un véritable amour. Que serait en effet l'amour de quelqu'un qui serait fidèle seulement aux heures de rencontre de celui ou de celle qu'il aime, et qui oublierait celle qu'il aime, celui qu'il aime, chaque fois qu'il s'en trouve éloigné? Il est impossible d'être prêt à aimer Dieu quand le jour viendra si on ne vit pas de cet amour au quotidien. L'amour dont il s'agit est en effet un amour gratuit, inconditionnel. Calculer son amour, cela est la négation d'un amour vrai. Il s'agit d'être en amour, et l'amour vrai est fidèle à toute heure du jour et de la nuit. « Je dors, mais mon cœur veille », dit l'amende du cantique. On ne peut qu'être prêt à aimer en tout moment, et tout prochain quel qu'il soit, sinon on n'est jamais véritablement aimant.
Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !»
Selon des écrits juifs, ce qu'on appelle le Targoum, la venue du Messie se fera au cours de la nuit pascale, qui deviendra ainsi le centre de l'histoire. Les disciples du Messie Jésus attendent aussi son retour dans la nuit, comme le dit l'apôtre Paul.
Vous-même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.
Cette image ne veut pas dire, comme on le dit souvent, que Dieu vient sournoisement pour nous faire mourir. Elle dit que Jésus est celui qui est attendu à tous les instants et en tout prochain, et qu'il est attendu pour nous faire vivre dans l'amour. La nuit, c'est le symbole des ténèbres du monde où le mal est puissant. C'est aussi, cela peut être aussi, la nuit de la foi dans laquelle nous cherchons le Seigneur. Relisons encore Paul.
Frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Donc, ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Car Dieu ne nous a pas destinés pour la colère, mais pour le salut, afin que, dans la veille ou le sommeil, nous vivions unis à lui.
Avoir le cœur en éveil, c'est être perpétuellement vigilant, à aimer Dieu et à aimer tout prochain. Oh, non pas aimer le prochain à cause de Dieu, comme si les autres n'étaient qu'un prétexte à notre devoir d'aimer le Créateur, mais aimer le prochain de toute notre tendresse, de tout notre cœur, dans la totalité de notre être, corps, âme et Dieu, Dieu qui est l'âme de notre âme. C'est de nuit que les premiers chrétiens célébraient le repas de la Pâque du Seigneur. Ils veillaient dans la nuit du samedi au dimanche pour être prêts à accueillir celui qui vient de nuit.
Puisque le retour du Christ était attendu dans la nuit, la lecture de l'Évangile aux vigiles des dimanches portait particulièrement le caractère d'un symbole du retour du Christ pour le jugement. Comme était fort le sentiment de la présence du Christ à la lecture de l'Évangile, ou même dès qu'apparaissait le livre des Évangiles. Le prêtre et le peuple tout entier se retournaient vers l'Orient jusqu'à ce que le diacre commence à faire parler le Seigneur.
Quelle belle expression, faire parler le Seigneur. Nous ne célébrons malheureusement plus guère de nuit, seulement peut-être la fête de la Pâque et encore. Mais n'avons-nous pas à retrouver cette attente ardente du Christ qui vient réellement à nous lors du repas eucharistique sous l'humble voile du pain partagé qui est le symbole sacré de l'amitié. Il vient pour que nous sachions sortir à sa rencontre et le reconnaître, lui qui est discrètement caché derrière chacun, chacune des plus petits des humains. Nous serons alors élever la qualité de notre amour pour ce frère et cette sœur, l'élever à la mesure de l'amour divin.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 254-8750 passe après 22h si possible. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons toutes les coordonnées aussi pour les conditions d'abonnement. Notre numéro de fax 256-1106. L'École de la foi et le catéchuménat de Montréal et le relais Mont-Royal organiseront aussi de janvier à Pâques prochain un parcours d'initiation à l'Évangile tous les mardis soirs. Téléphonez-nous, nous vous donnerons tous les renseignements.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.